La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici dans ce lieu ce matin. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble ce matin dans ce temps de culte, que vous soyez loin ou tout proche et empêchés d'être avec nous dans ce lieu. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Ce matin, nous sommes réunis et nous allons ensemble pouvoir mettre un temps à part dans nos vies, un temps pour réfléchir à notre actualité, un temps pour pouvoir faire place à une parole qui vient d'ailleurs, une parole qui nous veut du bien, une parole de bénédiction dans nos vies. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Éternel, rassemble-nous dans ton esprit et que nous puissions ensemble prendre le temps de la méditation, le temps de la réflexion, le temps du recul, le temps de l'engagement intime, le temps pour faire place à ta parole et à ta conversion. Éternel, nous te faisons une place dans nos vies. Viens habiter nos vies. Amen. Et je vous invite à chanter avec le psautier français. Au tout début du psautier, vous avez toute la liturgie avec les réponses de la liturgie qui sont dans le petit livret. Seigneur, que tous s'unissent. Nous louons le Seigneur. Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Je vous invite ce matin à partager un poème sur la joie de Missak Manouchian. « Ô joie, souffle enthousiaste, quand tu jaillis des cœurs gros de chagrin, de détresse et de souffrance, doux et fécond est ton torrent de volupté. Sur tes visages, tel un baiser de lumière, tantôt tu répands une ineffable rêverie, tantôt tu allumes de multiples appels lancinants dans les yeux, comme un inextinguible feu. Tu es semblable à ces sources limpides, venues du plus profond des montagnes, et qui, comme les abondants ruisseaux printaniers, donnent la vie à tous dans leur course, fertilisés par les ardeurs de l'hiver, aimés par le baiser ivre du soleil. Tu es parfois une oasis née du sable, où d'innombrables lassitudes viennent te bénir. Ô joie, lumière débordante, toi fontaine enchantée, feu sacré, telle la clarté vivifiante du soleil, sois inépuisable pour les cœurs obscurs. Chantons notre louange avec le psaume 138, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Jésus dit à ceux qui avaient mis leur confiance en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Que cette recherche de la vérité anime notre foi. Nous nous présentons devant le Seigneur avec ces mots de Dietrich Bonhoeffer qui dit « Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, les hommes vont à toi dans la faiblesse, te trouve pauvre et méprisé, méconnu et trahi. et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes frères. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur vos vies. Jésus nous l'annonce, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Que cette lumière illumine nos vies. Confessons ensemble notre foi avec ces mots que je vous propose ce matin. Nous croyons au Dieu unique et créateur dans nos vies. Nous croyons que Dieu nous a aimés le premier et qu'il nous accorde sa confiance. Nous croyons que Dieu est miséricordieux et que sa patience envers nous est sans limite. Il nous libère de nos culpabilités et nous soutient dans les épreuves. Se confier en lui nous fait vivre dans l'espérance. Nous croyons qu'il écoute nos prières et nous donne l'assurance de ne jamais être délaissés. En lui, nous trouvons le courage d'être selon sa promesse. Nous croyons que toute vie peut être changée par la grâce de Dieu et qu'avec lui nous trouvons notre terre promise. Nous croyons en Jésus, son Fils bien-aimé, qui par amour pour les humains a subi l'humiliation et la mort à cause de son courage et de sa foi. Nous croyons qu'il a vaincu la mort et que la vie éternelle est promise à tous. Nous croyons au Saint-Esprit et à la présence de Dieu dans nos vies. Malgré nos faiblesses et nos doutes, nous voulons le louer et le servir en parole et en acte. Nous aspirons à veiller toujours le retour de Jésus en nos frères et sœurs en humanité. Et nous gardons dans notre cœur l'image de notre Seigneur, abandonné de tous et priant seul dans le jardin de Gethsémané. Nous croyons que le salut de Dieu est promis à toutes et tous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, j'ai choisi le texte de la Genèse dans le chapitre 17, les versets 1 à 8. J'ai choisi ce texte pour évoquer avec vous le sujet de la terre promise, qui m'a semblé être un sujet d'actualité, non seulement pour les troubles que nous voyons tout autour de nous, par rapport aux territoires que les uns veulent, que les autres convoitent et que d'autres sont obligés de défendre, et puis aussi par rapport à l'actualité que nous avons vécue cette semaine avec les 23 de l'affiche rouge qui étaient sur notre terre et qui ont voulu la défendre. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre. Dieu lui dit, « Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle le pays où tu séjournes en immigré et je serai leur Dieu. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 179, les strophes 1, 2 et 3. Nous t'invoquons au grand Dieu dans le louange et prière. Nous prions ensemble. Toi, le Christ, tu offres un trésor d'évangile. Tu déposes en nous un don unique, celui d'être porteur de ta vie. Mais pour qu'il soit évident que le rayonnement vient de toi et non pas de nous, tu as déposé ce don irremplaçable dans des vases d'argile, dans des cœurs de pauvres. Tu viens prendre place dans la fragilité de nos êtres, là et non pas ailleurs. Alors, sans que nous sachions comment, tu fais de nous, si démunis et vulnérables, le rayonnement de ta présence parmi les humains. Amen. C'est à un étranger que Dieu promet une terre. D'ailleurs, si Abraham n'était pas immigré dans le pays où il est arrivé poussé par un mystérieux désir, Dieu n'aurait nul besoin de lui promettre une telle chose. Il faut être déraciné pour avoir besoin d'une terre. Cette promesse de la terre est à l'origine du pire comme du meilleur dans l'histoire des êtres humains. Du pire parce que posséder la terre est le mobile de nombreuses guerres. Et nous en sommes les témoins aujourd'hui, alors que depuis 2 ans, l'Ukraine se défend de l'invasion de forces russes qui prétendent posséder la terre ukrainienne. Comment ne pas être en sympathie avec ce peuple qui nous rappelle que très près de nous, à notre époque, les conquêtes de territoires ne sont pas obsolètes et que l'idéologie expansionniste reste encore un mobile de guerre. Comment ne pas penser aux conflits de territoires jamais réglés, en Palestine même, là où devait couler le lait et le miel et où coule le sang depuis tant d'années? Sans doute le texte de la Genèse n'ignore pas cette attitude qui vise à mener des guerres de conquête pour coloniser de nouveaux territoires. La Bible est même très souvent explicite à ce sujet, puisqu'à chaque promesse faite au patriarche de donner une terre où habiter, Dieu demande de chasser les premiers occupants. Comme si un droit divin autorisait un peuple à en chasser un autre de la terre qu'il habite. L'idéologie de la terre promise a donc montré qu'elle permettait le pire en matière de colonisation et d'arrogance. Pourtant, quand Abraham entend une nouvelle fois la promesse que Dieu lui adresse, il est appelé à changer et à comprendre son avenir autrement. Abraham ne s'appellera plus Abraham, mais Abraham. Une lettre fichée en plein cœur de l'identité sépare le premier nom qui signifie le père élevé du second qui signifiera le père d'une multitude. Du nom glorieux et arrogant de père élevé, exalté, le patriarche de 99 ans va devenir le père d'une multitude. Élargissant le champ de son point de vue, ce nom ouvre devant l'homme une visée moins individualiste et plus responsable. Ce qu'il fait ne le concerne pas seulement lui, ce n'est pas son destin qui est en cause, mais aussi les générations à venir. La promesse a changé. Celui qui cherchait une terre où imposer sa loi devient celui qui attend une descendance à qui léguer l'héritage de sa vie, le patrimoine qu'il a construit, la vie qu'il aura accomplie. Alors où est-elle la terre promise ? Est-elle réelle à l'extérieur de nous ? Est-elle en chacun de nous dans un appel qui nous déplace vers ce que nous devons devenir par la foi ? Il semble bien que nous soyons toutes et tous étrangers sur la terre et que nous ne soyons pas appelés vers un lopin de terre pour le posséder, mais vers une parcelle de notre identité pour la découvrir. Dans la foi en l'appel de Dieu, celui-là même qui a déplacé Abraham jadis, qui déplaça le peuple hébreu d'Égypte jusque vers cette terre promise où ils eurent tant de mal à arriver, ou encore Ruth qui s'en alla vers le pays d'une autre femme, un pays qui n'était pas le sien et qui deviendra sa promesse. Peut-être est-il possible de découvrir dans ce déplacement notre responsabilité d'êtres humains pour une multitude. Telle des Abraham, père et mère de multitudes qui attendent un monde meilleur et qui s'y engagent. Quel est-il le patrimoine promis où coule le lait et le miel ? N'est-ce pas le pays où je puis reposer sous mon figuier sans avoir peur ? N'est-ce pas la patrie qui me permet de vivre librement, préservée par le droit et la justice, que je sois native sur ce sol ou étrangère ? Depuis toujours, les êtres humains se sont déplacés sur la surface de la terre dans des migrations qui ont permis à notre espèce humaine d'évoluer, de persister et de se développer. Ailleurs est le pays promis pour qui cherche plus que ce qu'il est. Ailleurs est l'inconnu qui fascine, qui élève, qui élargit l'espace, le temps, le cœur et l'esprit. Ailleurs est une terre d'où l'on ne revient jamais tout à fait entier, semant un peu de soi dans la vie d'un autre, laissant un peu de son âme chez le peuple ami, chez l'hôte prévenant qui nous aura reçus, chez l'étranger devenu une part de soi. Parfois, c'est la vie tout entière qu'on laisse ailleurs, comme la vie de ces 23 femmes et hommes qui, alors que la France ne leur avait pas offert la prospérité et le bonheur jusque-là, loin s'en faut, alors qu'ils étaient déplacés de guerre, orphelins et pauvres parmi les pauvres, traités comme étrangers dans le pays où ils vivaient, ceux-là se sont engagés pour cette terre d'asile. Quel droit leur avait-elle donné cette terre ? En étaient-ils les enfants reconnus à part entière ? Comme dit De Aragon dans son poème « L'affiche rouge », nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Comment imaginer que pour la liberté d'un pays qui ne les avait accueillis que contraints, Ces étrangers auraient le désir, le courage et la générosité de lui donner leur vie. Quelle était donc cette terre promise qui méritait qu'on meure pour elle? Pas la terre occupée, pas la terre qui collabore, soumise. Mais alors, où était-elle, cette terre promise, dans le cœur des 23 dont les visages avaient été affichés sur du rouge par la propagande xénophobe du nazisme pour faire peur aux passants? Quel était l'intérêt individuel d'un poète arménien d'aller risquer sa vie pour un pays qui n'était le sien que par les aléas d'une histoire humaine meurtrie? Toutefois, le poème d'Aragon continue. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sur vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. À qui est-elle donc promise, cette terre de la paix? N'est-elle promise qu'à des nomades passant et ne s'installant jamais vraiment chez eux? Dans son discours intitulé « I've been to the mountain top », prononcé à Memphis le 3 avril 1968, la veille de son assassinat, le pasteur Martin Luther King cherche la terre promise dans l'histoire de l'humanité. Et des Hébreux qui quittèrent l'Égypte aux réformateurs du XVIe siècle jusqu'au krach boursier de 1929, ils constatent que le monde est sans dessus-dessous et que dans son siècle même, il entend toujours le même cri. Nous voulons être libres. Il raconte l'histoire du bon samaritain et se demande pourquoi certains ne s'arrêtent pas pour venir en aide à l'homme laissé pour mort sur le bord du chemin. Il en déduit qu'ils ont eu peur. Le bon samaritain, lui, s'est arrêté parce qu'il ne s'est pas posé la question « Que va-t-il m'arriver si je m'arrête pour aider l'homme agressé ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui va arriver à l'homme agressé si je ne m'arrête pas ?» Il a pu projeter son moi sur le tu de l'autre. Et ensemble, ils ont été sauvés. La terre promise est là, où le salut des êtres humains est accompli. Là où le royaume de Dieu s'accomplit. Là où le désir de non-violence gagne sur la haine. Là où le courage fait advenir la justice. Là où le juste fait obstacle aux méchants. Martin Luther King continue son discours sans savoir que le lendemain, un assassin lui ôtera la vie. Et il dit « Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps, la longévité à son prix. Mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous. Mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. » La terre promise est aussi la pensée du meilleur de l'être humain. Elle n'est pas seulement l'idéologie du pire. Elle est cette parcelle de foi qu'on emporte avec soi partout et en tout temps et qui un jour vous permet d'accueillir la multitude dans le cœur d'un seul homme. La foi en un avenir meilleur, la foi en la paix à venir, la foi en l'être humain quand il entend l'appel et qu'il met tous ses efforts dans l'accomplissement d'une promesse. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps. La terre promise, la tienne, la mienne, la nôtre collectivement, est celle que nous labourons ensemble à coups de solidarité, de générosité, de patience et de révolte contre le mal. C'est celle sur laquelle nous plantons notre campement provisoire, juste le temps d'une vie entre naissance et mort, nomades sur la terre, mais investis pour elle. La terre promise, c'est celle que nous jetons sur celles et ceux qui sont tombés pour notre liberté et dans laquelle poussent l'œillet rouge, la rose et le réséda. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. La terre promise, c'est celle que l'on choisit d'aimer, comme une femme aimée, comme une mélinée à qui l'on souhaite un enfant quand bien même on ne serait plus là pour le voir naître. La terre promise, c'est la vraie liberté, pas celle qui demande que va-t-il m'arriver si je m'engage pour l'autre, mais celle qui nous lie les uns aux autres par amour de la vie, par amour du prochain, par responsabilité. Toujours devant nous, jamais acquise, toujours offerte, jamais colonisée. La terre promise n'est qu'une idée, mais quelle belle idée si l'on se sait toujours étranger. Amen. Merci David. Je vous invite à prendre le cantique 170, les strophes 1, 2 et 4 dans le louange et prière. Et nous nous levons. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces. Et c'est Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral, qui va partager avec nous les annonces.
Merci Béatrice. Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, tout d'abord une annonce où vous avez deviné, nous n'avons pas utilisé l'orgue aujourd'hui. Alors, ce n'est pas parce que c'est l'anniversaire de David. Mais je te souhaite, au nom du Conseil presbytéral et toute l'Assemblée, David, un excellent anniversaire. Si nous n'utilisons pas l'orgue aujourd'hui, c'est qu'un des trois moteurs de l'orgue a cramé. Il a brûlé cette semaine et nous avons eu beaucoup de chance d'avoir David qui a eu l'oreille et de s'apercevoir que le moteur chauffait, et également d'avoir un de ses élèves qui est pompier volontaire, ça aide pour éteindre le début d'un feu. Et je pense que ça n'aurait pas été tous les deux. Sincèrement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc nous avons décidé avec David de ne pas utiliser l'orgue. Il y a deux autres moteurs, donc l'orgue peut marcher, sauf que comme ces moteurs chauffent, nous avons mis devant le fait accompli nos propriétaires qui sont en vacances, donc qui nous ont pas encore répondu, la personne qui est en charge de la ville de Paris, mais nous avons demandé à ce que les deux autres moteurs, il y ait une espèce de système de refroidissement pour éviter que ça recommence, et puis également de réparer le troisième moteur qui a brûlé. Voilà, donc nous espérons assez rapidement réutiliser l'orgue. J'en profiterai aussi, et ça a été fait par écrit, pour redemander un audit de notre orgue, à la ville de Paris, afin qu'on puisse aussi vérifier, j'allais dire, dans son intégralité, de ce dont a besoin l'orgue. Voilà. Donc, à tout malheur, bonne chose, nous ne lâcherons pas, avec David et les autres organistes, notre propriétaire, pour que ça se passe au mieux. Cette semaine, retour des vacances scolaires pour certains. Donc, nous reprenons les activités du groupe protestant des artistes sur les cours de peinture, également deux cours de grec biblique cette semaine par Anne Velty et Edith Lounès. Mercredi, le groupe œcuménique se tient avec Agnès Adeline Schaeffer à l'oratoire. Jeudi, pause spirituelle avec Agnès Adeline Schaeffer également, qui est aujourd'hui à la paroisse de Châtillon-Coligny, dont vous trouverez dans la feuille rose, page 16, un texte d'une des conseillères presbytérales qui en a franchement marre depuis 2020 de ne pas avoir de pasteur dans cette paroisse, C'est l'objet de cette feuille rose. Il manque aujourd'hui dans nos paroisses une centaine de pasteurs. Alors tout le monde nous dit c'est qu'on les a pas. Ben si, on les a, mais on les a mis ailleurs. Donc on les met dans des postes de direction, typiquement à s'occuper du panier digital de l'église. Et voyez, le panier digital, ben, ça fait 2 mois qu'on n'en a pas. Ça serait peut-être mieux de mettre ce pasteur dans une paroisse et laisser un laïc bénévole régler les problèmes de paniers digitaux de l'église. Ceci étant dit, c'est une réalité. Donc, vous l'avez compris, l'offrande, pas de panier digital, mais nous prenons les chèques. Vous pouvez également nous faire un don sur notre site internet si vous n'avez pas de liquide. Vraiment, nous comptons sur votre soutien. Ça paraît drôle, le panier digital, mais ça nous fait vraiment chuter nos dons le dimanche matin. Donc je vous en prie, compensez d'une manière ou d'une autre, également en profitant, pour ceux qui payent des impôts, des réductions d'impôts. Vous savez que si vous nous donnez un chèque ou vous faites un don en ligne, vous pouvez nous donner 3 fois plus, puisque pour ceux qui payent des impôts, vous aurez une réduction in fine sur votre feuille d'impôt. Je vous remercie au nom du Conseil presbytéral. Encore joyeux anniversaire, David. Et grand merci à toi pour ta prédication. Bonne journée à tous.
Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur ensemble au moment où nous allons entrer dans la liturgie de la scène. Je rappelle que quiconque ici dans le temple veut participer à la scène, il n'y a aucune condition préalable que votre désir propre d'y participer. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à la scène. Quel que soit le baptême que vous avez reçu ou que vous n'avez pas encore reçu, quel que soit le chemin de foi ou de scepticisme que vous êtes en train de faire avec nous ici dans ce temple, vous êtes les bienvenus car c'est le Christ qui vous accueille et il ne vous demande pas votre billet d'entrée. Un jour au milieu de nous, Il y eut un homme comme nous qui vécut et mourut, un homme qui éprouva la peur, la colère, la confiance et la joie. Cet homme est le langage par lequel toi, notre Dieu, tu as adressé au monde la bonne nouvelle de ton amour inconditionnel. Cet homme est un signe de ta grâce pour nous aujourd'hui et pour ce don que tu nous as fait. Nous te disons merci et nous chantons. Et je vous invite à chanter le répond de la scène dans vos livrets à l'entrée du recueil du psautier français. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance ». Qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père, au moment où nous partageons ton repas, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. De sa mort et de sa résurrection. Nous recevons de toi ce repas, nourriture pour le monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Éternel, nous te prions aujourd'hui où l'Ukraine a besoin de notre soutien, de nos prières et de sentir que cette patrie n'est pas seule. Rappelle-nous, Éternel, qu'il en va de l'union de notre Europe, qu'il en va de la paix dans nos pays, qu'il en va d'une certaine idée de la liberté pour chacun d'entre nous, ici et dans tous les pays qui ont fait le choix d'être démocratiques et d'être régis par la loi et par la justice. Éternel, rappelle-nous qu'il ne s'agit pas de savoir ce qui va nous arriver à nous en propre, mais qu'il s'agit de regarder ce qui arrivera collectivement au peuple qui nous entoure, à tous ceux qui sont dans notre pays et à tous ceux qui ont besoin de la protection mutuelle que nous pouvons encore nous donner aujourd'hui par nos institutions. Rappelle-nous, Éternel, à notre responsabilité. Rappelle-nous la bénédiction et la chance que nous avons de pouvoir nous exprimer librement aujourd'hui, de pouvoir vivre avec des aspirations et des vocations que tu nous inspires, avec des désirs qui sont des désirs de paix et de bonheur, de joie et de fraternité. Rappelle-nous, Éternel, que tout cela dépend de nous, qu'il n'y a pas d'autre monde qui régisse notre monde, mais que c'est nous-mêmes qui construisons le nôtre. Éternel, nous te remettons le peuple d'Arménie qui a été mis en lumière extraordinairement dans notre actualité. Rappelle-nous à tous ces peuples qui sont laissés dans l'oubli, dans le calvaire de la guerre, de l'intrusion d'autres États sur leur terre. Ne permets pas que nous renoncions à l'aide que nous pouvons apporter à ceux qui sont dans la faiblesse. Éternel, nous te remettons la terre sainte, la terre promise, la terre de ceux qui croient de façon différente les uns des autres et qui ont en ce lieu, en Palestine, le lieu d'un carrefour où les croyants se réunissent depuis que ta parole a retenti dans leur cœur. Permets que cette vallée de larmes devienne enfin un jour, par le désir et la volonté des peuples, le lieu où coule le lait et le miel. Ensemble, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment d'être ensemble autour d'une même table, d'un même mémorial, celui du repas du Seigneur. Je vous invite à faire cercle autour de ce lieu de culte pour que nous puissions ensemble partager le pain et le vin au nom de celui qui nous a apporté sa parole. Voilà, essayons de faire un cercle avec un carré. Voilà, que notre cercle soit l'image de cette égalité de tout un chacun aux yeux de Dieu. Merci. Le pain que nous rompons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous attendrons ensemble de pouvoir communier en même temps. Merci. Je vous invite à chanter ensemble « À toi la gloire ». Frères et sœurs, allez avec ce que le Seigneur vous a donné aujourd'hui, sa parole, son repas, le pain qui vivra, le sang qui rappelle le prix de sa grâce. Éternel, tu es avec nous et nous voulons te rendre grâce. Je vous invite à aller dans ce monde tel qu'il est, avec les défis que vous avez à relever là où vous êtes, avec les résistances qu'il faudra opposer peut-être, avec la solidarité, la générosité qu'il faudra avoir envers ceux que le Seigneur mettra sur votre route. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen.